J'ai, à parler avec les anciens, mais à cœur de parler un peu, peut-être faire ça une fois dans le mois au moins, peut-être, je sais pas, mais de l'église locale. Je crois que c'est un thème qui est important. Ouais. Et je ne sais pas quelle importance il a pour vous. Hein. Essayez de penser, qu'est-ce que vous répondriez à cela? Quelle est l'importance de l'église locale? Alors, ce qu'on appelle l'église locale, c'est la communauté des chrétiens véritables qui sont baptisés et qui se rassemblent régulièrement en un lieu déterminé pour adorer Dieu et mettre en pratique ses commandements. Participer à la table, avoir de la communion dans les prières et s'exposer à l'enseignement de l'écriture et à la discipline de l'église. C'est ça que nous appelons église local. C'est pas juste un rassemblement de personnes disparates en un coin, mais c'est vraiment un rassemblement de chrétiens véritables. C'est ça qui compose l'église de Dieu et l'église locale est ainsi. Mais quelle importance est là pour nous? Il semble que, quand on regarde un petit peu partout, que l'église locale perde un peu de son intérêt. On se passe facilement, pour ne pas dire volontiers, parfois des rassemblements de l'Église. On peut facilement ne pas être à l'Église, ne pas assister à un rassemblement de l'Église pour telle ou telle raison. Hein. Le travail ou les devoirs scolaires ou la famille ou la fatigue. On entend parfois beaucoup de choses comme cela. Et je crois que c'est quelque chose qui est devenu un peu, commun partout. On a des églises qui parfois sont pleines le dimanche et puis qui en semaine sont quasiment vides. Pour des raisons qui, il y a peut-être des bonnes raisons à ça, mais il y en a d'autres qui ne sont pas forcément de bonnes raisons. Donc la fatigue, le travail, tout cela a vite, toutes ces choses ont vite raison de, parfois, nos forces et l'assistance que nous devons, peut-être en tant que croyants, à l'Église. L'Église a-t-elle encore de l'importance à nos yeux? Je connais des gens qui disent ce qui est important, c'est l'Église universelle, par exemple. C'est-à-dire, c'est la communauté, ce qu'on appelle l'Église universelle, c'est la communauté des croyants, depuis la Pentecôte jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est une Église qu'on ne voit pas. Hein. C'est vrai qu'elle est importante, la Bible en parle aussi. Et donc, l'Église locale, ça c'est une... Il y a beaucoup de dominations, puis ce sont des choses qui sont des constructions humaines. C'est encore une espèce de truc que les hommes ont construit pour pouvoir dominer les uns sur les autres. J'ai entendu ça une fois. Hein. Donc voilà, on oblige, etc., à être dans des lieux ensemble pour pouvoir se mettre sous la domination d'autres personnes. Mais ce n'est pas cela que la Bible enseigne, et je voudrais qu'on puisse prendre le temps de voir... Au fil du temps, on va pas tout faire aujourd'hui. Ce sera pas forcément. Vous pouvez être frustré parce que peut-être vous attendez des choses et c'est pas ce que je vais dire, mais on va essayer au fil du temps de développer certains aspects de l'Église locale, notamment la mission de l'Église locale, la nature de l'Église locale, notre engagement dans l'Église locale, l'adhésion dans l'Église locale, toutes ces choses, comment je dois agir vis-à-vis de l'Église locale. Et aujourd'hui, je voudrais simplement prendre quelques temps pour parler de l'importance de l'Église locale. Juste l'importance de l'Église locale. Alors, l'importance de l'Église locale, je crois, elle est montrée par la place qu'elle occupe dans l'Écriture. Alors, je ne veux pas regarder un texte en particulier, mais on peut lire quand même... Actes chapitre 2, parce que c'est le début de l'Église et c'est une histoire qui est fraîche et plein de joie et de profondeur. Donc, Actes chapitre 2. Donc, ça va être un peu le texte de toile de fond, mais on va regarder à plusieurs endroits des choses différentes. Actes chapitre 2, et on va lire à partir du verset 37. On est à la Pentecôte. L'apôtre Paul fait un discours et il arrive à la fin de son discours verset 36, en disant que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait, Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur, donc les personnes qui étaient là, rassemblées, qui venaient de nations différentes, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Verset 41. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu. Et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On a une histoire de l'Église primitive, à la fois l'Église, le début de l'Église qu'on appelle universelle, et puis l'Église locale, qui était en le même lieu. Mais je voudrais souligner le fait que l'importance de l'Église locale est montrée par la place que l'Église locale occupe dans l'Écriture. Il y a de nombreuses références. Là, on a une référence déjà à l'Église locale. Quand il est dit que Jésus, le Seigneur, ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés, le contexte qui est ici permet de comprendre qu'il s'agit de l'Église locale, parce que, bon, il parlait de toutes ces personnes qui faisaient des choses et puis qui se convertissaient, et puis le Seigneur ajoutait et s'ajoutait dans cette Église-là aussi. Donc, il y a de nombreuses références dans la Bible à l'Église local. La Bible parle bien sûr de l'Église qu'on dit universelle. Quand Jésus dit, par exemple, « Je bâtirai mon Église », il parle de l'Église universelle, l'Église qu'il va construire, en Matthieu chapitre 16. Et quand il parle en Éphésiens chapitre 1, verset 22 aussi, il dit « Il a tout mis », en parlant que Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus, et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. On parle de l'Église de tous les âges qui constituent le corps de Christ. Mais je voudrais vous faire remarquer qu'il y a beaucoup plus de versets dans la Bible qui font référence à l'Église locale qu'à l'Église universelle. Et l'Église, l'Écriture parle vraiment davantage de l'Église locale. Il y a des églises qui sont associées à une région, par exemple. On trouve en 1 Corinthiens 16, verset 19, que les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent. Donc il y a déjà deux choses ici. Il y a les églises d'Asie, donc d'une région particulière. Donc on parle bien ici d'église locale. Et même dans ce même verset, il dit Aquilas et Priscille avec l'église qui est dans leur maison. Il y a des églises de maison qui sont localisées dans des maisons individuelles. Par exemple, Colossiens 4:15 dit « Saluez les frères qui sont à Laodicée » et Nymphas, et l'église qui est dans sa maison. Donc l'église, c'est pas le bâtiment, c'est le groupe de personnes qui sont au Seigneur, régénérées, et qui se réunissent ensemble. Ça peut être dans une maison, ça peut être dans un lieu comme celui-ci, ça peut être une église dans une ville aussi. Donc il y a des églises qui sont associées à des villes précises. L'église de Jérusalem, acte 8:1 parle de l'église de Jérusalem, c'est ce que nous venons de voir ici dans le livre des Actes. Romains 16, par exemple, parle de l'église de Sancré. Donc, il y a beaucoup d'autres versets, on ne va pas les dire tous, mais beaucoup d'autres versets qui parlent aussi d'églises qui sont associées à une ville précise, des villes qui sont associées donc à une région précise, à une ville précise. Donc, on a tendance parfois à écarter l'église locale pour mettre en avant l'église qu'on appelle universelle, mais la Bible parle beaucoup et en beaucoup d'endroits de l'Église sous sa forme locale. C'est une chose. De nombreuses lettres sont adressées à l'Église locale. Pratiquement, presque toutes les épîtres sont adressées à des églises locales. Alors, les épîtres de Paul en particulier, à part 1 et 2 Timothée et Tite, qui sont des églises, des épîtres dites pastorales, à qui il adresse à Timothée ou à Tite, tout le reste des épîtres de l'apôtre Paul sont adressés à des églises. Donc, si vous regardez dans les salutations, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, ou à l'église des Thessaloniciens. Et donc, il y a beaucoup, pratiquement toutes les épîtres de Paul, en tout cas, sont adressées à des églises. Alors, si on prend Colossiens chapitre 3, versets 15 à 7, alors c'est une église, c'est une lettre qui est adressée à une église. Il y a beaucoup d'exhortations dans les épîtres qui sont adressées à des individus particuliers, mais ils le sont par l'intermédiaire de l'Église. Ça, c'est une chose qui est importante à souligner. Parfois, on dit, voilà, moi, je veux quelque chose pour moi, mais même lorsque ces lettres adressent des choses particulières, la lettre n'est pas adressée à des personnes en particulier. Par exemple, Colossiens, donc je reprends cela, chapitre 5, regardez Colossiens chapitre 3, pardon, Colossiens chapitre 3, on peut regarder ça ensemble, Colossiens chapitre 3, et puis verset 5, c'est bien, pardon, 15 plutôt, je crois, Colossiens chapitre 3, voilà, Colossiens chapitre 3, et puis à partir du verset, plutôt on va regarder du verset 18, à partir du verset 18, Colossiens chapitre 3, verset 18, il y a beaucoup ici, d'exhortations ici, même un peu avant aussi, verset 14, déjà il y a beaucoup d'exhortations qui sont données, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, soyez reconnaissants, et puis verset 18, il y a la lettre s'adresse à des groupes de personnes en particulier, femmes, que chacune soit soumise à vos maris, et puis maris, que chacun aime sa femme, les enfants doivent être obéissants aux parents, les parents doivent instruire les enfants. Donc la lettre s'adresse à ce moment-là à des groupes de personnes en particulier, mais elle est adressée néanmoins à l'Église. C'est pas une lettre adressée aux femmes de l'Église de Corinthe. Ce n'est pas une lettre adressée aux maris ou aux enfants de l'église de Colosse. C'est une lettre qui est adressée à l'église. Et donc Dieu s'adresse aux personnes en particulier par une lettre qui est adressée à l'église. Et donc c'est important de souligner cela. Cela montre quand même l'importance de l'église locale. Ces gens doivent être dans l'église locale pour recevoir cette instruction. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas le lire à la maison, qu'on peut pas le lire tout seul. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que il est important de voir que ces lettres sont confiées à des églises pour que cela soit enseigné en tant qu'église à l'ensemble des croyants. Si on trouve la même chose dans Thessaloniciens, mais on pourrait penser aussi à l'Apocalypse, où Jésus lui-même demande à Dieu lui-même demande à Jean, l'apôtre Jean, d'écrire aux églises. C'est une lettre qui est adressée, donc, à Apocalypse chapitre 1, verset 4, dit « Écris aux sept églises ». C'est une lettre qui est adressée aux sept églises. Et puis, il y a l'église d'Éphèse, on ne va pas les nommer toutes. Et ce qui est important de voir, c'est qu'à chaque fois, la lettre commence avec « Écris à l'ange de l'église d'Éphèse, à l'ange de l'église de Thyatire, à l'ange de l'église de Laodicée, de Smyrne, etc. » Mais elle termine toute de la même manière aussi en disant que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et donc ce sont des lettres qui sont adressées principalement par Dieu lui-même aux églises. Et c'est des églises locales, puisqu'il est question de l'église d'Éphèse, de l'église de Smyrne, de l'église, voilà, de Laodicée, de Philadelphie, etc. Donc c'est important de voir. Ici, je crois que l'Écriture accorde une place importante à l'Église locale, sous sa forme locale. Et nous aussi devons accorder une importance une importance à l'église locale parce que de nombreuses références sont faites à l'église locale et parce que on le voit ici, beaucoup de lettres sont adressées à l'église locale. C'est-à-dire que le chrétien individuellement, oui, bien sûr, on est sauvé individuellement. Hein. Dieu choisit individuellement, croyons, chaque personne qu'il sauve. Mais il ne les sauve pas pour qu'ils demeurent des individus isolés, tout seuls. Il les sauve pour qu'ils soient, pour qu'ils forment, la Bible dit, le corps de Christ, pour qu'ils soient ensemble réunis pour adorer Dieu. Et donc, Dieu, c'est quelque chose qui est important pour nous de considérer. Oui, certes, je suis sauvé individuellement. Dieu m'a choisi et m'a accordé la vie, bien sûr, mais pas pour que je vive de manière individuelle et isolée, mais pour que je vive avec les autres dans une communauté. Et quand on lit, par exemple, le livre des Actes ici, il est évident, ça tombe sous le sens que les premiers chrétiens, la première chose qu'ils font, si vous vous souvenez ce qu'on a lu tout à l'heure, ils acceptent la parole de Dieu. Quelle est la seconde chose? Ils se font baptiser et puis après, ils adhèrent à l'église locale. Ceux qui acceptèrent sa parole étaient dans un même lieu. C'est ce que la Bible dit. Ils sont dans un même lieu de manière assidue, régulièrement. Et là, c'était à l'époque tous les jours. Tous les jours, ils se rassemblaient, ils avaient la fraction du pain, s'exposaient à l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, il n'y a pas eu de personne qui dit, maman, je suis venu et hop, je m'en vais faire ce que je veux faire. Non, ils se sont tournés vers le Seigneur, ils ont été baptisés et ils se sont rassemblés en tant que qu'église. Donc, c'est important de considérer cela. Deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que l'importance de l'église locale aussi est montrée par la valeur qu'elle a aux yeux, que l'église a aux yeux, locale a aux yeux de Dieu. Peut-être qu'elle n'a pas beaucoup de valeur à nos yeux. Peut-être nous trouvons souvent à la critiquer. Nous trouvons qu'elle n'est pas assez ceci ou qu'elle n'est pas assez cela. Ça nous arrive, hein. Parfois, on compare les églises, mais là-bas, c'est comme ci, ici, c'est comme ça. Mais toutes les églises locales, qui sont les églises de Dieu, ont de la valeur à ses yeux. D'ailleurs, ce sont les églises de Dieu. Quand l'apôtre Paul écrit à Corinthe, il dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Donc cette église locale est considérée comme l'église de Dieu. C'est lui qui en est l'artisan et l'architecte. Quand Jésus dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle », certes, il parle de l'église locale, mais aussi on peut inclure l'église universelle, mais on peut aussi inclure l'église locale là-dedans. Et c'est son œuvre. L'église, même locale, n'est pas l'œuvre d'être humain. C'est Dieu qui œuvre pour rassembler ici son peuple au sein des différentes églises locales. Donc l'église, l'importance de l'église locale est montrée par le fait qu'elle a de la valeur aux yeux de Dieu. Dans Actes chapitre 20, verset 28, par exemple, vous vous rappelez, l'apôtre Paul remonte vers Jérusalem, vers la fin. Et il demande à Milet à recevoir les anciens de l'église d'Éphèse. Et il reçoit les anciens de l'église d'Éphèse et écoutez ce qu'il leur dit. Acte 20, verset 28, il leur dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. » Ici, il parle de ce troupeau qui est à Éphèse, sur lequel, il dit, le Saint-Esprit vous a établi évêque. Hein, donc, c'est le Saint-Esprit qui établit des évêques, des anciens, des pasteurs sur l'Église. Même si, dans une Église, on va dire qu'on va choisir ou qu'on va voter. Tout ça, ça rentre sous le plein contrôle de Dieu. On ne fait rien dans l'église de Dieu en disant que ça c'est nous qui avons choisi de faire ceci. Si on le fait conformément à ce que la parole de Dieu nous commande, c'est le Saint-Esprit qui agit et qui place. Et ici, l'apôtre Paul dit aux anciens de l'église d'Éphèse, c'est le Saint-Esprit qui vous a placé comme ancien sur ce troupeau. Et ce troupeau, c'est... Et pourquoi vous avez été placé sur eux? C'est pour les paître, pour les nourrir. C'est pour nourrir l'église du Seigneur. Donc ce troupeau, c'est l'église du Seigneur. Et il ajoute, il se l'est acquise par son propre sang. Et montre ainsi quelle est la valeur que cette église d'Éphèse a aux yeux de Dieu. Il dit que cette église d'Éphèse, cette église locale sur laquelle vous êtes, vous devez la considérer comme un peuple acquis par le précieux sang de Jésus-Christ. Et pas moins que cela. Pas moins que cela. Et donc l'église locale, l'église de Saint-Denis, l'ensemble de tous les chrétiens qui sont nés de nouveau, placés leur confiance en Jésus-Christ, cet ensemble-là est précieux aux yeux de Dieu. C'est un peuple que Dieu s'est acquis, il dit ici, hein, l'église de Dieu, que le Seigneur s'est acquis par son propre sang. Il a une grande valeur. Dans Tite, l'apôtre Paul disait que Jésus s'est donné lui-même afin de racheter, de nous racheter de toute iniquité pour se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Et c'est ainsi que l'on doit considérer l'église locale. Elle doit avoir de l'importance pour nous parce qu'elle a de l'importance pour Dieu et parce qu'elle a été rachetée à un prix extrêmement élevé. Quand l'apôtre Paul parle du corps même, corps physique du chrétien, il dit que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes et nous avons été rachetés à un grand prix. Hein. Donc on ne doit pas faire avec notre corps n'importe quoi. Il en est de même pour l'église locale. Elle est rachetée, elle a été rachetée au prix précieux du sang de Jésus-Christ. Et donc l'importance de l'église locale est montrée, on pourrait voir d'autres passages qui l'expriment un peu, mais l'importance de l'église locale est montrée par sa valeur, la valeur que l'église locale a aux yeux de Dieu. Elle ne doit pas en avoir moins à nos yeux. Elle ne doit pas en avoir moins à nos yeux. Mais hop, c'est pas. Non, c'est l'église, quand on y pense, hein, il faut penser que chaque individu est précieux aux yeux de Dieu, mais que l'ensemble, la congrégation, la communauté de ceux qui lui appartiennent lui est précieuse en tant que telle aussi. Et je dois apprendre aussi à l'apprécier. Et puis troisièmement, je voudrais souligner le fait que l'importance de l'église locale est montrée aussi par le rôle primordial que l'église locale a dans la vie du croyant. L'église locale a un rôle extrêmement important. Dieu lui confère un rôle important dans la vie du croyant. On pense pouvoir se passer parfois de l'église locale. Et certaines personnes disent « moi je me sens mieux quand je suis tout seul ouais. ». Vraiment, Dieu ne nous a pas créés pour être tout seul. Et il ne nous a pas régénérés non plus pour être tout seul. Quand il a créé Adam, il a dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Mais je crois que quand il a recréé le chrétien aussi, il n'est pas bon que le chrétien soit seul, parce que nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et un corps, c'est composé de membres différents qui doivent demeurer les uns avec les autres. Donc l'importance de l'église locale est montrée par le rôle important qu'elle a dans la vie du croyant. Premièrement, l'église locale, c'est la volonté de Dieu pour chaque croyant. L'église locale, c'est la volonté de Dieu pour chaque croyant. Dans le passage que nous avons lu en Actes chapitre 2, versets 46 et 47, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur Jésus ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc dès le début de l'histoire de l'Église, on est confronté au fait que les chrétiens sont dans une église, dans une entité, dans une communauté chrétienne et qu'ils y demeurent ensemble. L'église locale, c'est donc la volonté de Dieu pour le croyant. Ce qui se passe ici, c'est ce que Dieu veut pour les croyants. On l'a dit tout à l'heure, hein, ils se tournent vers le Seigneur Jésus-Christ, ils se font baptiser, ils adhèrent à l'église et ils participent après à la vie de l'église. L'église locale est la volonté de Dieu pour chaque croyant. Mais l'église locale est aussi l'instrument de Dieu pour la croissance spirituelle des croyants. L'église locale est la volonté de Dieu pour la croissance spirituelle des croyants. Nulle part ailleurs que dans l'église, le croyant a la possibilité de grandir véritablement et spirituellement. Là, vous dites, mais moi, je grandis bien en écoutant des messages sur Internet. Hein? Il y a plein de pasteurs que j'aime bien là-bas. J'écoute et je grandis comme ça. Je n'ai pas besoin d'être dans une église pour grandir. D'ailleurs, je grandis mieux sans les autres. Hein? Ça ne me pose pas de problème. J'ai pas de problème relationnel, etc. Je grandis mieux ainsi. Mais bibliquement, c'est pas juste, hein. Et puis, on voit que Dieu a prévu l'église locale pour que nous puissions grandir les uns avec les autres. Si vous regardez les exhortations qui nous sont données dans les épîtres, hein, elles nous sont données parce que nous vivons les uns avec les autres. Et souvent, c'est des exhortations qui touchent au relationnel. Il y a quelques exhortations qui touchent à notre péché propre, d'accord? Mais quand on lit l'épître aux Éphésiens, par exemple, qui est l'épître aux Éphésiens qu'on appelle l'épître de l'Église parfois, hein, dont les trois premiers chapitres, il est question de l'Église, hein, de Dieu, et dans les chapitres 4 et 5 et 6, eh bien, il est question du comportement du croyant au sein de l'Église de Dieu, eh bien, il y a beaucoup d'exhortations qui concernent les relations que les chrétiens entretiennent entre eux. Et Dieu veut que les chrétiens grandissent ensemble et qu'ils apprennent, qu'ils mûrissent, qu'ils croissent spirituellement en se frottant les uns aux autres, pas en restant isolé tout seul. Celui qui est tout seul dans le désert, il a de problèmes qu'avec lui-même, d'accord? Mais c'est pas ainsi que Dieu veut que son peuple grandisse. Il veut qu'il grandisse en demeurant ensemble et en manifestant dans les relations qu'ils entretiennent les uns avec les autres un parfait amour, afin que le monde même puisse voir comment ils s'aiment et que ce soit un témoignage aussi aux yeux du monde. Et donc l'église locale est le lieu de l'édification du croyant. Pardon, 1 Corinthiens 14, verset 26 dit « Lorsque vous vous assemblez les uns les autres, quelqu'un a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, que tout se fasse pour l'édification ?» Donc quand nous sommes ensemble en congrégation, que nous partageons des choses, il y en a un qui lit un cantique, un qui prie, etc., nous ne devons pas penser de manière individuelle « c'est mon offrande » à Dieu. C'est quelque chose que l'on fait collectivement. Quand une personne parle, c'est la communauté qui parle et qui présente au nom des autres quelque chose au Seigneur. C'est pour ça que quand on prie, quand on est dans la communauté, si on dit « Seigneur, je te remercie parce que tu m'as donné ceci, etc. », ce n'est pas vraiment le lieu pour cela. On a d'autres occasions pour le faire. Quand on est réunis ensemble, l'apôtre Paul disait, rappelez-vous, on a lu au Corinthiens chapitre 11 tout à l'heure, il disait, quand vous êtes ensemble, attendez-vous, il y en a qui viennent ensemble, et puis il y en a un qui mange, et puis l'autre qui a faim. C'est-à-dire, ils viennent ensemble, mais pour vivre de manière individuelle. Non, ce n'est pas ainsi que l'Église doit être vécue, mais il dit, quand vous êtes ensemble, attendez-vous, et vous allez prendre votre repas ensemble. De même, lorsque nous sommes ensemble en congrégation le jour du culte, eh bien, quand nous nous adressons au Seigneur, nous employons le « nous ». Hein, nous prions, nous portons, nous présentons l'Église tout entière. C'est une offrande collective que nous offrons ici. Et Dieu veut qu'il en soit ainsi. Nous avons des temps à la maison où nous pouvons être dans le cadre individuel ici. Mais quand l'Église est réunie, il dit il faut que tout se fasse pour que tout le monde puisse être édifié. D'accord? Et les gens sont édifiés quand nous disons « Seigneur, nous te remercions », quand nous témoignons de la grâce de Dieu pour la congrégation, etc. Voilà, quand nous mettons en avant les caractères de Dieu de manière collective. Donc dans l'Église, on apprend aussi à faire les choses voilà, en ordre, on entend l'enseignement de la parole de Dieu, et on cherche vraiment à s'édifier les uns les autres par les paroles de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 16, Paul enseigne que Dieu a donné à l'Église des hommes pour le perfectionnement et l'édification du corps de Christ. Et donc, les personnes qui sont données à l'Église sont pour l'édification de l'Église. Donc, l'Église, c'est bien le lieu de l'édification du croyant. Mais l'Église est le lieu aussi de la sanctification du croyant. Il y a beaucoup d'exhortations qui sont adressées aux Églises. Et je l'ai dit tout à l'heure, la plupart du temps, elle touche les relations interpersonnelles que nous avons les uns avec les autres. L'Église est composée de personnes différentes, qui viennent d'horizons différents. Et quelqu'un faisait remarquer que si nous avions à choisir nos amis, il y a peu de chances que nous aurions choisi les personnes qui sont ici, qui sont autour de nous dans l'église. Naturellement, vous ne m'aurez pas choisi, peut-être, et je ne vous aurais peut-être pas choisi. Ce qui fait que nous sommes ensemble, ce n'est pas que nous nous sommes choisis les uns les autres, c'est que Dieu nous a choisis et nous a mis ensemble. Et il veut, comme témoignage, que nous apprenions à vivre ensemble. Et l'église est le lieu, bien sûr, il ne dit pas que ça va marcher, l'église est le lieu où nous allons apprendre à vivre ensemble, à nous pardonner réciproquement, à nous aimer, à parler avec beaucoup d'attention les uns aux autres. C'est exactement ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 4, verset 1. Par exemple, il dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Je veux dire, voilà, je vais marcher digne tout seul. Non, moi je suis pas digne tout seul. Comment on fait? Eh bien, il faut le faire en toute humilité, en douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. On fait pas ça s'il y a personne à côté de nous. D'accord? Et ça, nous sommes appelés à le faire dans l'église. Et Dieu veut que l'on mûrisse dans notre sanctification en nous frottant les uns aux autres dans l'église. Pas en nous donnant des coups de poing, hein, pas frottant avec les poings, mais en acceptant de vivre les uns avec les autres, de nous pardonner, de nous aimer, voilà, même si cela nous coûte. Éphésiens chapitre 4, verset 30 et 31, il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute méchanceté, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous et soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » C'est dans l'église qu'on en apprend cela. Dans l'église locale, on n'apprend pas cela sur le milieu du travail, c'est pas vrai. On n'apprend pas cela quand on est tout seul, c'est pas vrai. On n'apprend pas cela quand on est simplement avec deux ou trois chrétiens réunis qu'on aime bien, c'est pas vrai. Hein? Il y a des gens qui disent, mais la Bible dit que là où il y a deux ou trois qui sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc c'est l'église, c'est pas vrai. C'est pas deux ou trois, c'est pas l'église. Ce passage ne dit pas ça. Hein? Le passage, on va le voir une autre fois, mais le contexte de ce passage, c'est la discipline. Hein? Et ça n'est pas du tout l'église. La preuve, c'est dans ce même passage un peu plus loin, qu'est-ce que dit Jésus? Il dit, si ton frère a péché, tu vas et tu le reprends. Puis il dit, si tu n'écoutes pas, tu prends deux ou trois personnes avec toi. Et puis il dit, s'il n'écoute pas les deux ou trois personnes, qu'est-ce que tu fais? Tu prends l'église. Donc les deux ou trois personnes, c'est pas l'église. D'accord? C'est une partie de l'église. Donc tu prends l'église avec toi. Et puis s'il n'écoute pas l'église, alors là, tu le considères comme un païen. Donc, et puis il dit, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, c'est-à-dire les deux ou trois témoins qu'il faut, je suis au milieu d'eux pour qu'ils puissent exercer la discipline. Donc il ne faut pas que nous considérions cela comme quelque chose qui veut dire qu'il suffit que les chrétiens soient réunis, deux chrétiens soient réunis ou trois chrétiens soient réunis quelque part pour que l'église soit réunie, l'église locale soit là. Absolument pas. Absolument pas. L'église, c'est quelque chose, on va le voir plus tard, mais de bien défini, qui a des contours bien définis. Quand on a déjà on a aperçu ça dans l'épître des Actes, il y a un contour quand même qui est bien défini. Et puis, l'église, c'est le lieu aussi où nous pouvons apprendre à satisfaire aux besoins des uns aux autres. Nous avons besoin, en fait, des uns des autres. Et l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, il dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes membres chacun pour sa part. Un peu plus tôt, en Corinthiens 12, 21, il dit, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Il dit, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Il y a des gens qui disent comme ça. Hein. Quelqu'un m'a dit une fois, moi, du moment où je suis bien avec le pasteur et sa femme, le reste, ça passe. D'accord? Bon, oui, parfois on pense comme ça. Hein. J'ai besoin de personne. Je n'ai besoin de personne. Ça, c'est une parole que disent, vous vous rappelez dans l'église de, je pense que c'est Laodicée, non? Il disait, parce que tu crois que tu es riche, tu dis, je n'ai besoin de personne, tu ne sais pas que tu es nu, hein. Voilà, comment Dieu s'adresse à cette église. Nous avons, la Bible dit ici, besoin les uns des autres. Et Dieu le sait, même si nous estimons qu'on n'a pas besoin les uns des autres, mais nous nous trompons. Nous en avons besoin. Et nous ne pouvons pas dire parce que, voilà, je suis l'œil, j'ai pas besoin des autres. Hein. L'œil ne dit pas ça. Hein. Dans notre corps, il ne dit pas aux pieds, j'ai pas besoin de toi. Je vais me débrouiller tout seul. Comme dire quelqu'un, on n'a jamais vu un œil qui roule tout seul sous la route pour aller quelque part parce qu'il s'est, débarrassé des pieds. Non, le corps tout entier fonctionne ensemble. Et ceux qui disent qu'ils n'ont pas besoin les uns des autres, quelqu'un a dit, ils font exactement pareil. Ils font comme s'ils étaient un œil tout seul ou un pied tout seul qui fonctionne quelque part. Ils sont autosuffisants. Donc on se déclare contre ce que la parole de Dieu dit. Donc l'Église est vraiment le lieu où nous apprenons que nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin que les autres aussi répondent à nos besoins. Nous avons besoin de répondre aux besoins aussi de ceux qui sont en face de nous. Et puis, l'Église locale est l'instrument de Dieu pour la discipline des croyants. Ça, c'est une chose qui est importante aussi. L'Église locale est un instrument de Dieu dans la discipline des croyants. On l'a dit tout à l'heure dans Matthieu chapitre 18, versets 15 et 17. On voit dans ce passage que Dieu parle Jésus parle de la restauration d'un frère. C'est-à-dire, le but, c'est de chercher à gagner quelqu'un qui s'est égaré. Toujours, hein. Mais, comment on le fait? Il dit, on commence avec une personne, toi tout seul. Si elle ne t'écoute pas, tu vas voir, tu prends avec toi deux ou trois personnes. Mais s'il n'écoute pas, la limite extrême, c'est quoi? C'est l'Église. C'est-à-dire que Dieu confère à l'Église un poids particulier dans le fait de ramener aussi quelqu'un. Et c'est l'instrument que Dieu utilise et important dans la vie du croyant pour pouvoir ramener aussi l'enfant de Dieu qui résiste ou qui s'égare. Et puis s'il veut pas écouter l'Église, alors à ce moment-là, c'est le dernier rempart, et bien il dit, ben, faut le considérer comme un païen. Faut le considérer comme un publicain. C'est ainsi que Jésus voit les choses. L'apôtre Paul, rappelez-vous, en 1 Corinthiens 5, il reproche à l'église de Corinthe de ne pas avoir tranché dans un cas d'immoralité. On avait étudié ça, hein. Il y avait un cas d'inceste dans l'église. Il dit, je m'étonne que vous n'ayez pas tranché, jugé cette affaire. Il dit, de là où je suis, j'ai déjà jugé cette affaire. L'église doit discipliner et doit accepter cette responsabilité qui est la sienne aussi de discipliner. C'est l'instrument de Dieu. Donc, l'Église, vous voyez, locale a une importance dans la vie même du croyant. Elle a une importance dans l'Écriture, on le voit, elle a une importance aux yeux de Dieu, mais elle a une importance dans la vie de tous les jours du croyant. Et nous devons être attentifs à cela. Alors, il y a beaucoup de choses, je vais terminer avec ça, qui tendent à orienter notre vision de l'Église locale. Je ne sais pas si à quel point nous considérons l'Église locale. Est-ce que nous venons parce qu'il faut venir? Est-ce que nous assistons aux assemblées parce qu'il faut assister aux assemblées? Mais sans plus. Il y a, je crois, qu'on vit dans un monde où l'individualisme, on est immergé dans l'individualisme. Nous baignons dans l'égocentrisme et l'individualisme. Et cet individualisme nous pousse à nous placer nous-mêmes comme notre propre référence, n'est-ce pas? On entend parfois les gens dire « Pour moi, l'Église, c'est ça !» Ou nous devenons, donc dans ce cas-là, la mesure des choses. On a du mal à penser à l'Église locale autrement que par soi-même et autrement que pour soi-même, ici. Et donc si... on nous demandait de ce que devrait être l'Église locale, je suppose que nous donnerions beaucoup de définitions peut-être différentes. Moi, je pense qu'on devrait faire ça à l'Église. Moi, je pense que l'Église devait être comme ça. Moi, je pense que comme ceci ou comme cela, ici. Mais l'Écriture s'adresse vraiment, c'est vrai, personnellement aux croyants, mais par le biais de l'Église locale. L'Écriture ne reconnaît pas de chrétiens, vivant isolé individuellement. Ça n'existe pas ici. Elle exhorte individuellement, certes, le croyant, mais toujours par le biais de l'Église. Et parfois, on cherche toujours une parole pour moi. On entend même des personnes dire « je viens au culte pour moi, pas pour les autres ». Mais en fait, c'est pas tout à fait juste. On vient aussi pour être avec les autres et pour ensemble entendre la parole, pour ensemble prendre soin les uns des autres. On vient aussi pour les autres. Tout à l'heure, nous allons discuter, nous allons parler, et peut-être nous allons soigner quelqu'un par nos mots aussi, hein, encourager. Donc, on vient aussi pour cela. On vient aussi pour les autres. Quelqu'un m'a dit une fois, ouais, on a passé du temps à étudier un livre, mais ce livre s'adressait plutôt à l'Église et pas à moi. Alors qu'il y avait beaucoup d'exhortations individuelles et personnelles dans ce livre. Mais la manière d'écouter parfois, dire, oh, ça c'est à l'Église de Corinthe, donc ça s'adresse à l'Église, ça s'adresse pas à moi. Il faudrait mettre à Albert. Comme ça, je vais écouter. Non, hein, oui. Quand Dieu parle à l'Église, il parle à la congrégation, et c'est important de noter que l'Église est importante à ses yeux, mais nous y trouvons aussi des exhortations qui sont des exhortations personnelles. Mais Dieu ne reconnaît pas, moi je crois, l'Écriture ne reconnaît pas de chrétiens qui veulent vivre isolément et puis qui veulent avoir des choses que pour eux tout seuls. Moi je veux avoir ma parole pour moi tout seul, mon exhortation pour moi tout seul, etc. Rappelez-vous de Thomas. Vous vous rappelez de Thomas lorsque Jésus est ressuscité. La Bible dit que les disciples étaient dans la chambre haute et Thomas, la Bible souligne bien, Thomas n'était pas là. Et lorsque les disciples lui ont dit « Nous avons vu le Seigneur », il dit « Moi, si je ne vois pas les traces dans les mains, dans ses mains, je ne peux pas m'amener dans son côté, je ne vous croirai pas. » Et qu'est-ce que Jésus a fait ? Il n'est pas allé rencontrer Thomas dans sa chambre en privé. Il est réapparu à quel moment? Lorsque Thomas était avec les autres. Il n'a pas eu droit à une révélation privée dans sa petite chambre. Thomas, me voici, c'est moi. Non, il a fallu qu'il rejoigne la communauté. Et là, il a pu avoir l'expérience de la résurrection de Jésus-Christ. Et je crois qu'il en est de même pour nous. Parfois, on a tendance à s'isoler et puis croire que... Parce qu'on est devenu individualiste et Dieu va me donner ma parole pour moi. J'ai pas besoin des autres. J'ai qu'à ouvrir mon ordinateur, j'aurai mon message sur Internet. Dieu va me parler à moi. Dieu veut nous parler quand nous sommes aussi ensemble. Il y a une bénédiction particulière que Dieu accorde aux chrétiens réunis ensemble pour écouter sa parole, pour vivre ensemble. Ce que le psalmiste dit, je crois que c'est le psaume 133 qui dit qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, c'est là que vient la bénédiction de Dieu. Il y a des choses comme cela que l'on doit vivre ensemble, qu'on ne peut pas vivre autrement. D'accord ? Et donc il nous faut considérer cela. Deuxième chose que je voudrais souligner aussi, c'est que nous établissons parfois des hiérarchies et des distinctions, des dissociations là où il ne devrait pas en avoir. Et nous disons, par exemple, ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est l'Église universelle. Ce qui est important, c'est d'être au Seigneur. Ce n'est pas d'être dans une église locale. Ce qui est important, c'est d'être au Seigneur. Ce qui est important, c'est le salut. Le baptême, par exemple, ça ne sauve pas le baptême. Donc, ce qui est important, c'est d'être sauvé. C'est vraiment d'avoir une relation avec Dieu. Ainsi, nous raisonnons comme ça avec le baptême. Et puis, on met des hiérarchies. Donc, ce qui est le plus important, c'est d'abord d'être au Seigneur. Et puis ensuite, d'être baptisé. Mais ça peut attendre. Parce que ce n'est pas important. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'on a établi des hiérarchies. Quelqu'un a dit, on arrive à avoir un salut en étapes. Et puis, on a des marches d'escalier sous lesquelles on reste plus ou moins longtemps à notre guise. Alors, parfois, on est baptisé, mais on dit, assister à la vie d'église, ça n'est pas important. L'important, c'est d'être au Seigneur. Je suis baptisé, ça va. J'ai pas besoin d'être dans la vie, de participer à une vie d'église. Ou parfois, on est dans la vie d'église et puis on dit, pour moi, la Sainte-Seine, c'est pas important. Ce qui est important, c'est au Seigneur, d'être baptisé. Je suis là. Mais participer à la table du Seigneur, c'est pas important. D'accord ? Et puis, peut-être on fait tout ça, mais la réunion de prière, c'est pas important. C'est pas quelque... Vous voyez, on établit des hiérarchies, des dissociations, et en fait, on fait comme si les choses étaient des entités en elles-mêmes, que je peux prendre une... Voilà, lui, il aime bien la réunion de prière, moi, j'aime bien l'enseignement de la parole, voilà. Et on établit comme ça des hiérarchies, des dissociations. Et alors qu'il faut prendre le tout. Quand vous regardez Actes chapitre 2, versets 42 à 47 qu'on a lu, essayez d'imaginer. Il était impensable d'avoir un chrétien qui a reçu, vous avez ça ici, ceux qui ont reçu sa parole se furent quoi ? Baptisés. Et ensuite, ils ont demeuré tous ensemble. Et ensuite, ils ont persévéré dans l'enseignement apostolique, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Et puis aussi dans le partage de leurs biens. Mais il était impensable de voir quelqu'un qui dirait « Moi, j'ai accepté Christ, mais je ne veux pas me faire baptiser. » Ou bien « Moi, j'ai accepté la parole, j'ai été baptisé, mais je ne veux pas m'associer à l'église de Jérusalem. » On aurait dit qu'il y a un problème. D'accord ? Et moi, j'ai été baptisé, j'ai accepté le Seigneur, j'ai été baptisé, je vais à l'église de Jérusalem, mais je ne veux pas persévérer dans l'enseignement des apôtres. Je ne veux pas prendre la Sainte Cène. Je ne veux pas venir à la réunion de prière. C'était impensable. En fait, le salut, c'était tout ça. Quelqu'un qui est sauvé, il faisait toutes ces choses-là. Alors, bien sûr, il y a parfois un temps qui existe entre le fait de recevoir Christ et le fait d'être baptisé, mais je crois que peut-être dans nos sociétés modernes, on a pris l'habitude de mettre beaucoup de temps dans ces choses, et puis ce faisant, on est arrivé sans le vouloir à constituer un salut qui est décortiqué. Il y a cet aspect-là, et puis un autre aspect qui peut attendre très longtemps. Alors que non, dans la Bible, le baptême vient tout de suite après qu'on ait reçu Christ. On n'a pas besoin de faire une école de théologie pour être baptisé une fois qu'on a reçu Christ. C'est tout de suite. Alors bien sûr, on prend un petit peu de temps parce que maintenant, des gens peuvent dire « Je suis au Seigneur » et puis on ne sait pas si c'est vrai. Donc on est obligé d'attendre et puis de prendre un certain nombre de temps. Mais il faut que le temps entre les deux soit le plus court possible. Et une fois qu'on est au Seigneur, eh bien, on doit être dans une église. C'est impensable un chrétien qui ne rejoint pas une communauté chrétienne. Ça n'a pas de sens biblique. Et puis une fois qu'il est dans la communauté chrétienne, ça n'a aucun sens qu'il ne persévère pas dans tout ce qui est écrit, la communion fraternelle, l'enseignement, qui ne se place pas sous l'enseignement de la parole de Dieu, qui ne participe pas à la table du Seigneur, qui ne soit pas aux réunions de prière et qui n'ait pas de communion fraternelle avec les autres. C'est impensable. C'est impensable. Il nous faut considérer les choses ainsi. Et c'est parce que dans nos esprits, on a pris l'habitude d'établir des hiérarchies, des distinctions entre les choses, qu'on finit par perdre le sens global du salut et de la vie que le chrétien doit avoir dans l'Église. Toutes ces choses ne forment en fait qu'une seule chose. Être à Christ, être baptisé, intégrer une Église locale, participer pleinement à la vie de l'Église locale, c'est la volonté de Dieu. Et tout ça, toutes ces choses font partie du salut. Et puis, je termine en disant, on a aussi développé parfois une vision mondialiste et qui est encouragée un peu par le développement de l'Internet. Et ça nous fait perdre de vue l'importance de l'église locale dans laquelle Dieu nous a placés. On trouve toutes les communautés de pasteurs qu'on voudrait sur Internet. Celui-là, je l'aime bien et j'écoute. Et puis, on trouve les messages qu'on a envie d'entendre. Donc, on va cliquer sur ce qu'on a envie d'entendre. Très peu sur ce qu'on a besoin d'entendre. C'est-à-dire que le marché qui est devant nous est tellement vaste qu'on peut maintenant, on est devenu des consommateurs et cela nous pousse petit à petit à nous éloigner de la volonté que Dieu a pour nous dans l'église locale. C'est la volonté de Dieu que nous soyons dans un lieu avec des personnes qu'il a désignées, que nous les trouvions extra ou pas, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quand Dieu dit, par exemple, dans Hébreux, soumettez-vous à vos conducteurs, il dit pas s'ils sont gentils. Peut-être qu'ils sont pas gentils, mais eux, ils auront à payer, à rendre compte à Dieu pour le fait qu'ils ne soient pas comme il faut. Mais nous aurons à rendre compte à Dieu pour le fait que nous ne soyons pas soumis comme il nous le demande aussi. Donc, le commandement de Dieu n'est pas conditionnel. D'accord, ici. Et donc, nous devons apprendre à vivre, à ne pas nous écarter de ce lieu que Dieu veut pour nous, parce que nous avons une alternative dans le monde, nous devons vivre l'Église telle que Dieu la veut pour nous, dans une structure bien particulière qu'on verra les prochaines fois, pour que nous puissions grandir et mûrir comme Dieu le veut. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Il s'agit ici, bien sûr, de l'Église universelle, mais aussi de l'Église locale, hein, qu'il a aimée. Est-ce que nous aimons l'Église locale? Est-ce que nous voyons l'importance de l'Église locale? Et où est-ce que nous sommes prêts aussi, d'une certaine manière, à nous sacrifier, non pas de manière expiatoire comme Christ l'a fait, mais à sacrifier de notre temps, de nos moyens, hein, de ce que nous avons, pour être aussi au service les uns des autres dans l'église locale. Que Dieu nous aide à considérer ces choses et l'importance de l'église locale. Prions. Merci Seigneur pour ta parole et pour ces choses. Je prie que ton esprit nous aide à concevoir pleinement ce que toi tu conçois. Détourne-nous de nous-mêmes, de notre égoïsme, de notre égocentrisme, de notre individualisme, et donne-nous de nous soumettre à ta parole. Nous voulons apprendre à aimer ce que tu aimes, à haïr ce que tu es. Et Seigneur, nous te prions que par ton esprit, tu inclines nos cœurs vers toi, vers ton peuple. Apprendre à aimer ce qui marche avec toi, ce que tu as placé à côté de nous. Et nous savons bien que nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons besoin, Seigneur, des uns, les uns des autres. Besoin de prier les uns pour les autres, mais aussi les uns avec les autres. Donne-nous de saisir véritablement l'importance de l'Église dans laquelle tu nous as placés, pour la gloire de ton nom. Amen.